France Inter.
C'est un syndicat qui se présente comme le meilleur défenseur des agriculteurs et de la paysannerie.
C'est une honte, c'est une honte. Un vrai chemin. On veut juste pouvoir vivre de notre métier, juste pouvoir travailler, juste pouvoir produire, juste nourrir les gens. On ne demande rien.
Née dans les années 90, la coordination rurale est le syndicat agricole qui monte et qui n'hésite pas à élever la voix.
On ne nous répondra pas maintenant, on ne nous répondra pas demain, c'est tout. Ça veut dire que vous pouvez crever, c'est ça que ça veut dire.
Mais on ne va pas crever, on ne va pas crever. Eh, parce qu'on va se battre, parce qu'on sait se battre.
Aujourd'hui, à la tête de 11 chambres d'agriculture en France, la coordination rurale, qu'on appelle aussi par ses initiales la CR, défie désormais la toute-puissante FNSEA et s'oppose régulièrement à l'État avec des méthodes plutôt musclées.
Si on sortait de notre bureau, c'est pas compliqué, on prenait une douche de merde. C'est un peu comme si on avait été séquestré.
Dans le Lot-et-Garonne, la coordination rurale est particulièrement puissante et gare à celui qui se trouve sur son chemin.
Tout s'est abattu sur moi. Est-ce que vous vous rendez compte des menaces de mort à mon âge? Vous dormez plus, vous comprenez bien que c'est lourd.
L'homme fort de la coordination rurale en Lot-et-Garonne, c'est Serge Bousquet-Cassagne.
Foutez-nous la paix, laissez-nous travailler. Mais foutez-nous la paix.
Fort en gueule et charismatique, il a poussé la construction d'une retenue d'eau de 900 000 mètres cubes sans autorisation au nez et à la barbe de l'État.
La préfète, elle a envoyé 30 gendarmes qui n'avaient plus un poil de sec face à 300 agriculteurs déterminés avec des fourches, tractopelles et qui avaient foutu le feu. On a été des ventres mous face à la coordination rurale.
Alors que le 32e congrès de ce syndicat contestataire doit se tenir ce mois-ci à Auch dans le Gers, la bataille pour le contrôle de la coordination rurale fait rage entre coups de pression et menaces.
On a des façons de se parler qui sont des fois rudes. Vous savez, on lave son linge sale en famille.
Alors, comment la coordination rurale est-elle devenue si puissante? Avec quelle méthode? Et pourquoi l'État baisse autant les yeux? Pour Révélation, Julie Pietri a mené l'enquête.
Révélation, le magazine de la cellule Investigation de Radio France, Benoît Colomba.
Et pour bien comprendre toute cette histoire, Julie Pietri, vous êtes partie sur la trace de l'un des fondateurs de la coordination rurale.
Quelques nuages, quelques gouttes de pluie, des champs de maïs, des tracteurs. C'est la campagne ici. Je suis dans le sud-ouest de la France, dans le Gers, parce que c'est ici que tout a commencé pour la coordination rurale il y a une trentaine d'années, à l'hiver 1991. À l'origine du mouvement, en fait, il y a une colère paysanne et quelques hommes qui portent, qui pensent, qui fondent le mouvement. Ils sont trois. Aujourd'hui, deux d'entre eux sont morts, sont décédés. Il reste Philippe Arnaud, un petit peu plus de 70 ans, et il vit toujours dans le Gers. On est à Condon, à peu près à mi-distance entre Agen et Auch. Bonjour.
Bonjour. Qu'est-ce que je vous offre?
Non, je veux bien un verre d'eau.
Et avec cet homme, Julie, vous avez cherché à comprendre l'origine de cette colère paysanne qui a donc contribué à la création de la coordination rurale.
Oui, cette colère est liée à une réforme de la politique agricole commune européenne, celle de 1992, qui va changer totalement la façon dont les agriculteurs sont payés. Et ça, pour Philippe Arnaud, ça a été vécu comme une déflagration.
Nous nous sommes dit, il faut faire quelque chose. Si autrefois les agriculteurs produisaient et vendaient à un prix qui était encadré d'ailleurs par l'Union européenne et ils tiraient leurs revenus et leurs chiffres d'affaires de la vente de leurs produits. Cette réforme de la PAC instituait comme principe de dire non, maintenant ça ne va plus être pareil, vous allez vendre les produits aux cours mondiaux. Mais comme évidemment, aux cours mondiaux qui sont très bas, vous ne pourrez pas vivre, eh bien on compensera par des subventions ce manque à gagner. Ça montrait les agriculteurs comme des assistés, ce qu'ils ne sont pas. Quelles que soient les affinités de chacun, syndicales, politiques, religieuses, que sais-je, peu importe, c'était notre métier qui était en danger, on s'unit tous. C'était vraiment une réaction par les tripes.
Au départ, ce mouvement de la coordination rurale est très artisanal. Il n'y a pas beaucoup d'argent, pas de téléphone portable non plus pour s'organiser. La mobilisation prend par le bouche à oreille et par des réunions dans les cantons.
Et en juin 1992, la coordination rurale décide de tenter une opération spectaculaire.
Oui, un blocus de Paris. Écoutez ces archives tirées des journaux télévisés d'Antenne 2 des 22 et 23 juin.
Quartier général, poste de commandement, camp retranché, le vocabulaire militaire est de rigueur pour désigner la petite école désaffectée d'Écublé. Écublé, à 15 km de Chartres, en pleine Beauce, devenu depuis quelques jours le siège des irréductibles de la coordination rurale. C'est ici qu'on prépare l'opération Blocus, sous l'œil attentif des photographes.
Oui, merci. Voilà.
6 lignes de téléphone, un fax, un ordinateur, petits moyens peut-être, mais grande détermination.
On a presque tout perdu, qu'on soit dans les champs en train de perdre l'argent ou en train de barrer, c'est pour nous c'est pareil. Et s'il faut rester 15 jours, on restera 15 jours. S'il faut rester 3 semaines, on restera 3 semaines. S'il faut rester un mois, on restera un mois.
Les agriculteurs, devant la pression policière, vont en fait vite rentrer chez eux, dans leur ferme. Le blocus de Paris n'a pas lieu, mais la coordination rurale est lancée.
Et le syndicat ultra-dominant à l'époque, et qui domine toujours d'ailleurs, Julie, c'est évidemment la FNSEA, qui appelle aussi à l'époque à manifester au niveau national contre cette réforme de la PAC.
Oui, dans un premier temps, mais la FNSEA construit les politiques agricoles avec le gouvernement, et ça depuis les années 60, c'est ce qu'on appelle la co-gestion, et c'est ce qui va servir de point d'appui à la coordination rurale, comme l'explique Eve Fouilleux, directrice de recherche en sciences politiques au CNRS.
La FNSEA a été amenée, à partir du moment où la réforme était décidée, à accompagner la mise en œuvre de la réforme pour calculer les paiements compensatoires. Ça a été un énorme volet de négociation. Donc ça aussi, c'est un carburant de la coordination rurale. Dans son ADN, il y a cette dénonciation de la co-gestion et du fait que la FNSEA ait des positions d'accompagnement des réformes, en même temps qu'elle les co-fabrique avec l'État.
Donc, la coordination rurale, elle critique cette position dominante de la FNSEA. Et Julie, si le mouvement naît dans le Gers, on l'a entendu, c'est dans un département voisin, dans le Lot-et-Garonne, que le syndicat va vraiment s'enraciner.
Exactement, parce qu'ici, la colère liée à la réforme de la PAC se greffe à une autre colère. L'agence locale de l'eau veut mettre en place des compteurs dans les exploitations. Michel Delaperrière est un agriculteur spécialisé dans le maïs, surnom le baron parce qu'il est noble, aristocrate. Un homme qui n'a pas franchement pour habitude de descendre dans la rue.
Nous n'étions pas très formés pour les manifestations. En clair, quand on voyait un CRS, on avait plutôt tendance à faire demi-tour qu'à l'affronter. Et donc, on a eu besoin, à un moment donné, d'être formés. On m'avait dit, il y a quelqu'un qui défend l'agriculture, mais il est communiste. Alors, j'ai dit, bon, écoutez, si c'est un bon communiste, pourquoi pas ?
L'alliance entre un homme venu de la droite et un communiste pour lancer la coordination rurale, et ce bon communiste, alors, qui est-ce ?
C'est Raymond Girardi, un agriculteur qui, au nom de la coordination rurale, va organiser le combat sur plusieurs fronts, contre l'agence de l'eau, donc, mais aussi contre l'importation de fraises d'Espagne, par exemple, qui concurrence celle du Lot-et-Garonne. Je l'ai rencontré, Raymond Girardi, et il m'a raconté comment il a piloté l'interception des camions espagnols.
Une action syndicale, c'est pas le foutoir, hein ? C'est super organisé. On arrive, on part, tant de paysans se mettent là, on arrête les camions, il y a ceux qui sont équipés pour vider le camion, on fait suivre des cordes pour tirer les palettes du fond du camion, etc. etc. C'était vraiment organisé. Voilà. La réussite d'une action syndicale, c'est une parfaite organisation de l'action. C'est pas la pagaille où tout le monde arrive, on fait n'importe quoi, etc. etc. Et puis, il y a aussi une morale à l'histoire. Je tiens à le dire, parce que des fois, ça déborde, hein, et c'est dommage. Quand on interceptait les camions, le chauffeur, lui, il était responsable de rien. Le camion, il était responsable de rien. Donc, on ne touche pas au chauffeur, on ne touche pas au camion. On vide la fraise. Et on était respecté pour ça. Et moi, mes collègues, hein, je leur ai dit, si à un moment donné, il y a un débordement qui ne me convient pas, eh bien, vous allez vous faire voir, vous vous démerdez, je ne viens plus.
Oui, donc ce qu'on entend, c'est que selon lui, les actions coup de poing doivent tout de même suivre certaines règles. Cela dit, Julie, la coordination rurale, elle s'est faite aussi connaître, et d'abord par des interventions parfois violentes.
Oui, et qui ont fait peur. Dans les années 90, Bernard Baume était directeur adjoint de la Mutualité sociale agricole à Agen. C'est un petit peu la sécurité sociale des agriculteurs. Et il se souvient très bien des actions de la coordination rurale.
La désoccupation de locaux. Des troupeaux de moutons qui sont arrivés dans les locaux, un bouc qui s'est promené dans le bâtiment, puis des crottes partout, et j'étais en train de discuter avec un manifestant. Pensant à un autre, est passé derrière moi, il m'a écrasé un œuf frais sur la tête. une période folle.
Ce même témoin se souvient aussi d'une autre irruption dans ces locaux, quand une centaine de manifestants montent au service du contentieux, là où sont stockés les dossiers des agriculteurs en difficulté, qui ne payent plus leurs cotisations, et voilà la suite.
Et là, ils se sont mis à balancer les dossiers par la fenêtre, tous les dossiers du contentieux, et en bas, ils ont mis le feu. Donc on a perdu un paquet de dossiers dans l'affaire.
Pour eux, c'était une façon de protéger les leurs.
Oui, bien sûr. Ça, c'est les poursuites qu'on n'a pas pu faire. Faute de dossier. Il y avait la peur.
C'était des méthodes que vous aviez vues localement avant ?
Non, jamais. On n'avait aucun problème.
Capacité de mobilisation rapide, action collective choc et médiatisée au service des agriculteurs contre les injustices, c'est ça, la coordination rurale, disent les historiques du mouvement.
Et comment réagit le syndicat majoritaire, la FNSEA ?
Jean-Michel Delmas, son leader à l'époque dans le Lot-et-Garonne, refuse de discuter avec cette coordination rurale naissante qui lui met aussi la pression. Et quand la direction de la FNSEA lui demande ce qu'il se passe, il a bien du mal à répondre.
Coup de téléphone menaçant chez moi, on va venir te casser la gueule. Et alors on me regarde à Paris comme un zombie en disant « Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous foutez? Qu'est-ce que ce truc? C'est incroyable, vous et le GER, vous êtes en révolution permanente, ça va pas bientôt finir, ces conneries. » Ben, je dis « Attendez les mecs, vous avez des recettes vous? Voilà. » « Ah ben non, ben oui, oh bon, c'est local, ça va passer, voilà. »
Sauf que ça ne va pas du tout passer, la coordination rurale s'implante durablement en Lot-et-Garonne.
Oui, dès 2001, le syndicat prend la présidence de la Chambre d'agriculture et c'est même de ce territoire du Lot-et-Garonne que le syndicat national tire en grande partie sa force aujourd'hui par le charisme de ses dirigeants, par ses actions médiatiques aussi comme la montée en tracteur jusqu'au marché de Rungis lors de la grande crise agricole de l'an dernier. Désormais, la CR pilote donc 11 chambres d'agriculture en France, une progression fulgurante en quelques années.
Et aujourd'hui, Julie, quelle est la ligne de ce syndicat ?
Eh bien là-dessus, écoutez à nouveau la chercheuse du CNRS, Eve Fouilleux.
Ça, c'est le grand paradoxe, c'est-à-dire qu'ils apparaissent comme les gros challengers de la FNSEA, mais en réalité, ils proposent le même modèle, qu'on peut qualifier de productiviste, qui est une agriculture chimique, qui est basée sur le paquet technique, pesticides, engrais, semences améliorées et mécanisation. Ça se traduit par exemple dans la dénonciation des normes environnementales.
Et est-ce que la coordination rurale affiche une proximité avec un parti politique ?
Alors officiellement non, mais certaines de ces figures ne cachent plus leur engagement à l'extrême droite. Reconquête pour Philippe Arnaud, le cofondateur du mouvement qu'on a entendu au tout début de cette enquête, et puis l'ERN pour le leader de la CR en Lot-et-Garonne. Quant à la tendance politique des sympathisants de la coordination rurale, c'est un des sujets d'étude de François Purseigle. Il est professeur en sociologie à l'école agronomique de Toulouse et chercheur associé au Centre de recherche politique de Sciences Po Paris.
C'est à peu près 60% des proches de la coordination rurale qui se pensent proches également d'un parti qu'on peut situer à l'extrême droite de l'échiquier politique. Est-ce à dire qu'il y a un lien organique entre cette organisation et les partis d'extrême droite ? Non. Est-ce par contre grâce à cette organisation qui puise finalement son discours dans ce que je vais appeler un agrarisme, c'est-à-dire un discours qui porte sur le fait que les paysans sont au centre de la civilisation française ? Est-ce que l'extrême droite va profiter aussi finalement de l'émergence et du renforcement des positions de la coordination rurale dans des régions où l'extrême droite ne fait pas forcément de bons scores? C'est une vraie question qui se pose dans les années qui viennent.
Donc, malgré des liens qui existent bel et bien, on ne peut pas réduire non plus la coordination rurale à l'extrême droite. Ce syndicat touche visiblement une corde sensible dans le monde paysan.
Oui, en axant sa communication sur le désespoir paysan, sur la mort de l'agriculture française et de l'agriculteur, analyse encore François Purseigle.
La coordination va mettre le doigt sur quelque chose d'extrêmement sensible dans un monde agricole pétri de cette matrice catholique, ce suicide, cette mort du paysan dont on ne parle pas dans les familles. Et il est vrai que cette population aujourd'hui dans la société française s'efface. On n'a plus aujourd'hui que 398 000 chefs d'exploitation. Dans les années qui viennent, il n'en restera plus que 200 000. Et c'est quelque chose qui va déstabiliser profondément aussi l'appareil de représentation syndicale agricole que de voir une organisation pointer du doigt l'acte ultime de l'effacement du paysan dans la société, qu'est le suicide.
France Inter. Révélation, Benoît Colomba.
Et ce que vous avez constaté, Julie Pietri, c'est que cette angoisse légitime de la disparition d'un monde paysan, elle sert de carburant à la coordination rurale, la CR, en Lot-et-Garonne, pour défier l'État et ses représentants sur le terrain.
Oui, et ça, on le retrouve dans les slogans de la coordination rurale. Foutez-nous la paix, laissez-nous travailler, ou encore, tu ne marcheras jamais seul. La CR dit en fait aux agriculteurs qui peinent à s'en sortir qu'ils ne sont plus isolés face aux difficultés. Et ça a été le cas avec cet homme en souffrance que nous avons rencontré sur son exploitation.
Donc ça, c'est la ferme.
Oui, ça, c'est la ferme. La ferme, après, s'étend en bas. Tout ce qui est en tournesol, c'est tout à moi. Ça fait le tour, ça va jusque là-bas au fond. Oh, il y a 2 kilomètres. Je ne vais pas me laisser faire, moi. Sinon, on nous jette dehors comme un des malpropres.
Cet agriculteur, c'est Bernard Giol, installé depuis 45 ans à Mauvezin sur Guppy. Il a fait du tournesol, il a fait de l'élevage et puis les difficultés sont arrivées. Arrêt maladie, dettes qui s'accumulent, jusqu'à la mise en liquidation judiciaire de sa ferme en 2007. Pendant des années, il ne dira rien à personne.
Oui, mais c'est comme ça. L'agriculteur, c'est ça. On ne peut pas parler aux autres. On le garde pour soi et puis ça y est. Jusqu'au jour... Ça arrive, quoi.
C'est-à-dire qu'il apprend que sa ferme va être vendue aux enchères à Agen, c'était en juin dernier. Son petit-fils Lucas, qui voulait prendre sa suite, est sous le choc et il cherche de l'aide. Il va en trouver auprès de la coordination rurale.
J'ai contacté les jeunes agriculteurs de GIA, j'ai aucune réponse. Et du coup, je me suis dit, mais je vais essayer de contacter la CR et puis on va voir ce qu'il y aura, quoi. Mais franchement, ils ont fait un boulot monstre.
S'il n'y avait pas eu la CR, qu'est-ce qui se serait passé?
C'est simple. J'ai 2000 litres de gasoil, j'ai 150 litres d'huile d'usager. Je traitais tout et je faisais tout sauter, plus tout. Voilà.
Vous auriez fait sauter votre ferme?
Ah oui, tout, tout. J'aurais pollué la ferme, tout. Ça serait rendu incultivable.
Alors précisons, Julie, que vous avez contacté les jeunes agriculteurs du département et qui disent ne pas avoir retrouvé la trace de l'appel à l'aide lancé par le jeune Lucas. Et qu'a fait exactement la coordination rurale alors?
Ce qu'elle sait faire face au désespoir de cette famille, réponse rapide et appui immédiat. La coordination rurale communique sur les réseaux sociaux et prévient, la ferme va être vendue aux enchères. Oui, mais attention, personne ne doit surenchérir. L'exploitation doit revenir à Lucas, le petit fils et rien qu'à lui. Une forme de pression qu'assume à notre micro José Pérez, l'actuel président de la CR du Lot-et-Garonne.
C'est pas possible humainement que qui que ce soit vienne se positionner sur une affaire comme ça. Tout le monde veut gagner de l'argent, on est bien d'accord, mais aller faire de la spéculation sur le malheur des gens, ça c'est pas possible. Et nous on sera là bien évidemment le jour de l'audience pour que personne vienne se renchérir et que personne vienne se positionner. C'est inhumain de faire ça.
Bon, et comment ça s'est passé alors le jour de la vente aux enchères?
Eh bien, la CR est là et elle veille. Le prix de la ferme descend de 140 000 euros à près de 10 000 euros. Une dégringolade exceptionnelle. Je n'avais jamais vu ça, nous a expliqué le directeur général de la SAFER Nouvelle-Aquitaine qui s'occupe de la vente de biens fonciers ruraux. Devant ce prix extrêmement bas et forcément attirant, un homme qui ne connaît pas l'histoire de cette famille va surenchérir.
Et ça va mal se passer pour lui.
Oui, parce que la CR du 47 du Lot-et-Garonne va diffuser son nom, sa ville. Honte à lui, peut-on lire sur un post Facebook du syndicat le 2 juillet dernier. Et en commentaire, plus bas, il y a ces mots: vautour, charogne, débris, mange-merde, tôt ou tard, tu vas le regretter, avec des têtes de mort dessinées, ce qui a choqué durablement l'acheteur, Lucien de Boutet, 79 ans.
Tout s'est abattu sur moi, tout. Alors, les insultes, les coups de fil. Est-ce que vous vous rendez compte des menacements à mon âge? Tous ces réseaux sociaux, moi je ne savais même pas ce que c'était. Je ne suis pas sur Facebook, je ne connaissais pas tout ça. Mais ma femme a été insultée sur le téléphone et ça c'est invraisemblable. Votre mari est un salaud et vous êtes une salope au téléphone. On va venir porter pas du lisier, là c'était des bottes de paille, de vouloir labourer mon chemin pour que je puisse pas évidemment sortir de la maison et mon nom mis en pâture à tout le monde. Il y a des gens qui m'ont appelé, des anciens commerçants, me dit « Mais Lucien, c'est vraiment toi ?»« Oui, c'est moi. Fais attention, il m'a dit. Fais attention à toi et à ta famille. » Voilà. Vous dormez plus, vous comprenez bien que c'est lourd.
La coordination rurale du Lot-et-Garonne, de son côté, nie avoir orchestré cette campagne de harcèlement. C'est peut-être aller trop loin, mais pas de regret, a réagi son président. Il n'empêche, cette affaire a choqué jusque dans les rangs du syndicat. Écoutez cet historique de la coordination rurale dans le département qui a souhaité que son nom ne soit pas dévoilé. Sa voix a été transformée.
Maîtriser une vente, on l'a fait 50 fois, parce que derrière, il y a quand même des drames familiaux, il faut le dire. Donc c'est un truc de bon sens. On vient à deux ou trois, on donne un coup de coude, on marche sur un pied, mais ce jour-là, on en a fait des caisses sur Facebook et puis dans la presse. On a emmené cette enchère à un niveau qui était inacceptable, et forcément, il y a un mec qui a levé le doigt. Et après, on est allé le menacer quand même. C'est une dérive, ça, c'est du pénal.
Le parquet d'Agen a d'ailleurs ouvert une enquête pour entrave à la liberté des enchères en juillet dernier. Mais depuis, le coup de pression a eu l'effet escompté. L'acheteur harcelé s'est retiré. Et c'est finalement la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne, contrôlée par la coordination rurale, qui a racheté la ferme via une association pour la transmettre au jeune Lucas.
Et ce n'est pas le seul exemple de pression exercée par la coordination rurale dans le Lot-et-Garonne.
Non, ses dirigeants ont créé en 2015 ce qu'ils appellent les phares, les forces d'action rapide, un nom percutant, emprunté à un ancien corps de l'armée de terre. Le principe, dès qu'un agriculteur est contrôlé, il envoie un message et le renfort arrive. Écoutez cet agent de l'État dont nous avons transformé la voix.
Les forces d'action rapide, c'est pas un mythe. Par exemple, un collègue va se faire un contrôle sur le bien-être animal dans un élevage, il arrive sur place et 15 minutes après, il y a 10 agriculteurs de la coordination rurale qui sont présents. Et ils n'empêchent pas forcément le contrôle, c'est pas ça. Ils sont là en soutien. Mais c'est une pression.
Et parfois, l'intimidation monte encore d'un cran.
Oui, comme en janvier 2024, en plein mouvement de colère agricole, des membres de la coordination rurale se rendent devant l'inspection du travail à Agen. Et là, le cadavre d'un sanglier éventré est pendu à un arbre. Écoutez le témoignage de cet agent, il a lui aussi préféré que son nom ne soit pas dévoilé. Sa voix a été transformée.
C'était pas la première fois en fait qu'on avait eu des dégradations. Au départ, je me suis dit bon, c'est un énième truc. Et c'est en recevant des messages de collègues partout en France qui nous disaient mais c'est fou ce que vous vivez, que j'ai réalisé qu'on s'était habitué en fait. On banalisait tout ça. Ce sanglier pendu là, éventré, c'était quand même un symbole de mort évident. Et nous, on était passés à côté. On se rend même plus compte de la gravité des faits parce qu'on baigne là-dedans depuis longtemps.
Et ce qui a choqué cet agent, c'est aussi la consigne qui lui a été donnée à lui et à ses collègues. Restez en télétravail, ne venez pas au bureau pour des questions de sécurité, avait précisé le préfet. J'aurais préféré, moi, qu'il tente de stopper tout ça, nous dit encore ce témoin. En avril 2024, face aux pressions qui perdurent, le préfet reçoit les syndicats de l'inspection du travail, mais aussi des services vétérinaires et de la répression des fraudes. Écoutez le témoignage de ce syndicaliste qui préfère que son nom n'apparaisse pas. Là encore, nous avons modifié sa voix.
On a demandé au préfet de réagir. C'est quand vous voulez hein, que vous faites des signalements article 40 pour incitation à la violence sur les agents de l'État. Parce que je rappelle qu'au-delà du sanglier, il y a eu aussi des appels à la violence sur les réseaux sociaux. Dans l'État, il se fait marcher sur les pieds, franchement. C'est en dessous de tout. Alors pourquoi il continuerait pas? Ils gueulent, ils saccagent et ils obtiennent des trucs. Personne ne leur dit rien.
Nous avons sollicité le préfet, Daniel Barnier. Par écrit, il nous a assuré que les agents de l'État avaient tout son soutien et que la remise en cause de leur travail était inadmissible.
Cela dit, Julie, ce sentiment d'être lâché par l'État, il existe bien. Et vous l'avez également observé aussi au sein de l'OFB, l'Office français de la biodiversité.
Oui, qui a une mission de police de l'environnement en France. L'OFB fait respecter la loi, les règles, les normes en vigueur. Et ça ne plaît pas à la coordination rurale. Un exemple, Christian Convert, secrétaire général du syndicat national, qui en janvier 2024 déclare devant des militants de la CR que chaque voiture de l'OFB qui entrera sur une exploitation sera brûlée. Une plainte a été déposée contre lui, mais Christian Convert ne regrette rien.
Mais oui, complètement, mais bien sûr. Si on doit aller devant le procureur, on ira.
Si on doit aller en prison, on ira. Si on veut rien dire, faut pas faire de syndicalisme. C'est tout.
Mais ça a le mérite d'être clair. Et cette stratégie de provocation assumée, est-ce qu'elle fonctionne ?
En Lot-et-Garonne, où les tensions sont particulièrement vives, oui, complètement. L'Office français de la biodiversité a même stoppé net ses contrôles agriculteurs pendant plusieurs mois. Et quand l'Office retente un contrôle en avril 2024, pour la première fois depuis un moment, la riposte est immédiate. Des manifestants CR débarquent devant les locaux de l'OFB. Ils déversent 30 000 litres de lisier et diffusent les images sur le compte Facebook du syndicat. À l'intérieur du bâtiment, il y a une dizaine d'agents. Deux d'entre eux ont accepté de nous raconter, à condition de transformer leur voix.
Si on sortait de notre bureau, c'est pas compliqué, on prenait une douche de merde. C'est un peu comme si on avait été séquestré.
Si on s'était retrouvé sous ce jet de lisier, je pense franchement qu'on aurait été plaqué au sol. On a tenté de sortir quelques véhicules du parking et ça a duré très longtemps. On était outrés, en fait, que ça puisse durer aussi longtemps sans qu'il soit interrompu.
Mais les gendarmes ne sont pas intervenus ?
Ils étaient bien présents sur place, on les voit sur les images, mais ils ne sont pas intervenus, effectivement. La CR47 et plusieurs de ses membres ont été jugés, d'ailleurs, pour cette action en juillet dernier. Maître Julie Rover représentait plusieurs agents de l'Office français de la biodiversité.
Malheureusement, ce culte de la loi du plus fort qu'applique la coordination rurale, ça fonctionne. Puisqu'il y a des ordres qui sont donnés aux agents de ne plus aller contrôler les exploitations. Il y a même les agents se sentent totalement démunis, humiliés aussi. Tout le monde baisse les bras et on lâche un peu ces agents-là. Et donc là, ce qu'il faut, c'est une réponse forte de l'institution judiciaire.
En première instance, le syndicat Coordination Rurale a été relaxé, mais José Pérez, le vice-président de la CR47 à l'époque, a lui écopé de 6 mois de prison avec sursis. Écoutez l'avocat du syndicat, Christophe Dejean.
Il est courageux, tout simplement. Il protège les siens. Et ça, c'est son honneur.
Il y a des agriculteurs qui se suicident toutes les semaines. C'est un drame total. Il faut que les agriculteurs soient entendus. Et si cette affaire pénale a existé, c'est parce que le monde agricole est en train de disparaître. Est-ce que quelque chose est fait ? Rien n'est fait. La seule chose qui est faite, c'est une poursuite pénale.
Et finalement, le parquet d'Agen a fait appel de la décision de relax à l'encontre du syndicat. Il y aura donc un nouveau procès.
Et Julie, ce n'est pas la première fois que des leaders de la coordination rurale du Lot-et-Garonne se retrouvent devant les tribunaux.
Non, et il y a un dossier emblématique, c'est celui de la retenue d'eau de Caussade, un projet de lac artificiel porté par la coordination rurale et dont le but est d'irriguer les terres d'une vingtaine d'agriculteurs. D'abord autorisé par arrêté préfectoral, sa construction est ensuite rapidement interdite. Un revirement brutal de l'État en 2018 qui déclenche la colère de Serge Bousquet-Cassagne, alors président de la Chambre d'agriculture et leader incontournable de la coordination rurale. Un homme aujourd'hui candidat pour représenter le RN aux prochaines législatives et que connaît bien Denis Barrault, auteur d'un livre sur le syndicalisme agricole du Lot-et-Garonne.
Serge Bousquet-Cassagne est un agriculteur du Lot-et-Garonne. Il a hérité de la pépinière familiale et il développe également un verger de pruniers, très très impliqué dans le syndicalisme agricole depuis les années 95. Il se qualifie lui-même de chef de meute, il a un charisme certain, et il est à l'heure actuelle considéré presque comme un démiurge.
Un démiurge, c'est quand même pas un peu exagéré?
Pas vraiment, en fait. Serge Bousquet-Cassagne aime se surnommer Dieu, c'est ce que nous ont confirmé plusieurs proches. Il a travaillé dur sur ce dossier de Caussade et quand l'interdiction tombe, il décide, avec ses proches, de lancer quand même la construction. Il a d'ailleurs été condamné pour ça, en appel, à 10 mois de prison avec sursis. Un fait d'armes qu'il aime raconter, comme dans ce montage vidéo diffusé sur YouTube par la Coordination Rurale Occitanie. En voici un extrait.
Ce lac, on l'a fait. On a payé aussi pour voir. Hein. Mais bon, c'est le prix de la liberté.
On avait une procession de ruraux, plutôt jeunes, mais des vieux aussi, qui venaient se proposer pour venir travailler au lac. On triait les mecs. Hein.
Et ça a été une formidable aventure humaine. Et vas-y, toi, sur un tracteur à 300 chevaux. Est-ce que vous imaginez ça par une autre profession que la nôtre? Ça n'existe pas.
Mais comment l'État a pu laisser faire une chose pareille? Je rappelle qu'on parle là d'une construction officiellement interdite.
J'ai pu rencontrer un témoin qui a suivi les coulisses de ce dossier, écouter ses explications, sa voix a été transformée.
En fait, la consigne qui avait été donnée à la préfète, Béatrice Lagarde, ça a été de serrer la vis, d'empêcher la construction de ce barrage. Mais à ce moment-là, on est en plein dans la crise des gilets jaunes. Donc elle a demandé à la préfecture de région 8 compagnies de gendarmes mobiles, ce qui lui a été refusé, et elle a finalement envoyé 30 gendarmes qui n'avaient plus un poil de sec face à 300 agriculteurs qui étaient déterminés avec des fourches, des tractopelles et qui avaient foutu le feu sur le dessus de la digue. On a été franchement des ventres mous face à la coordination rurale.
Et les élus locaux, qu'est-ce qu'ils en disent ?
Les maires du Lot et Garonne, par exemple, appuient le projet de retenue d'eau de Caussade massivement. À leur tête, il y a le maire modem d'Agen, Jean Dionis, du Séjour.
Les maires sur Caussade soutiennent les agriculteurs du Lot-et-Garonne, point barre. Et on les soutiendra dans la durée. On ne comprend pas ce qui s'est passé à Caussade et après sur le syndicalisme agricole si on n'a pas l'honnêteté de dire que sur le dossier Caussade, il y a eu un naufrage d'État. Ce volte-face absolument dingue, qui lui est vécu, mais vraiment comme une gifle d'une violence qu'on mesure pas aux agriculteurs. Et on a besoin de ces réserves en eau. Les agriculteurs en ont un besoin, mais vital.
Et je précise que le soutien du maire d'Agen aux actions de la coordination rurale ne se limite pas au dossier Caussade. Quand il y a eu 400 000 euros de dégâts début 2024 à Agen lors des manifestations agricoles, Jean Dionis du Séjour n'a pas déposé plainte. Il estime que c'est à l'État et aux collectivités de payer pour le nettoyage.
Donc la coordination rurale a le soutien de nombreux élus dans cette affaire du lac de Caussade. Et ce lac, bah, il est toujours là aujourd'hui.
Oui, et quelque part, c'est quand même une victoire de la coordination rurale. Un lac interdit, mais construit quand même, et qui est aujourd'hui en voie de régularisation. Le préfet y travaille. Un véritable gâchis pour Anne Roch, juriste à France Nature Environnement.
L'État a été totalement démissionnaire dans ce dossier. Il a pris des arrêtés qu'il n'a jamais fait respecter. Maintenant, il tente de nous dire qu'il peut-être que l'ouvrage est régularisable alors qu'on sait que ça ne l'est pas du point de vue du droit européen. Et donc, on sent bien que les préfets qui se succèdent sont embêtés et ne tiennent pas tête à la coordination rurale du Lot-et-Garonne.
Cela dit, Julie, les leaders du syndicat sont tout de même aujourd'hui dans le viseur de la Cour des comptes.
Oui, parce que la Cour des comptes a publié un rapport très sévère sur le fonctionnement de la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne lorsque Serge Bousquet-Cassagne était aux commandes. Voilà ce qu'en disait la procureure générale de la Chambre du contentieux de la Cour des comptes. C'était lors d'une audience le 16 octobre dernier. Nous avons fait lire un extrait de ses propos.
Le népotisme des dirigeants de la Chambre d'agriculture justifie des sanctions exemplaires. Il y a là une organisation clanique et familiale parsemée d'infractions et d'irrégularités. Vous nous dites que tout ce qui a été fait vise à défendre les agriculteurs du Lot-et-Garonne, mais en réalité, vous avez mêlé ces agriculteurs à un mariage incestueux entre les intérêts personnels de quelques-uns et l'intérêt public.
Ah oui, ce sont des mots forts employés par la procureure générale de la Cour des comptes. Qu'est-ce qui est reproché exactement aux dirigeants de la coordination rurale du Lot-et-Garonne ?
D'avoir utilisé l'argent public de la Chambre d'agriculture pour financer la retenue d'eau illégale de Caussade et d'avoir aussi servi leurs intérêts personnels au passage. Et ça, ça met à mal l'image du syndicat et son slogan « servir, pas se servir ».
Mais en quoi ils auraient servi leurs intérêts personnels ?
Pour construire Caussade, il fallait du matériel. La procureure général a expliqué à l'audience comment Serge Bousquet-Cassagne, on le rappelle président de la Chambre d'agriculture à l'époque, comment il a directement commandé sans mise en concurrence pour 60 000 euros de matériel à l'entreprise d'un proche, son vice-président Christian Girardi, qui dément, lui, tout favoritisme.
Ça représente 1% du chiffre d'affaires de notre entreprise, du chiffre d'affaires annuel. Et puis, si vous voulez, on était tellement accroché à la construction de ce lac, que ce n'était pas une question de bénéfice ou de priorité, mais c'est nul ça. C'est pas, ça n'a jamais traversé notre esprit ça. Après, les juges trancheront. Nous, on a notre conscience pour nous.
La décision de la Cour des comptes est attendue dans les prochaines semaines.
Donc, on l'a compris, Serge Bousquet-Cassagne est soupçonné dans cette affaire d'avoir favorisé l'un de ses proches pour l'attribution d'un marché, mais ce n'est pas tout, Julie.
Oui, il est également accusé d'avoir embauché son fils, Nicolas Bousquet-Cassagne, comme comptable à la Chambre d'agriculture et de l'avoir utilisé pour valider des paiements illégaux. Écoutez le témoignage de cette source proche de la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne. Nous avons transformé sa voix.
En octobre 2021, Serge Bousquet-Cassagne, il a annoncé « ce sera mon fils ».
Et ça, sans lancer d'appel à candidature. Et donc, il est devenu comptable. Et jamais l'État n'aurait dû laisser faire ça. Un père, président de champ d'agriculture, et son fils qui veille au compte. Je vous donne un exemple. Un jour, on a voulu acquérir 2 voitures. À cette époque, on était en tutelle renforcée. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas, en fait, faire de dépenses sans l'accord du préfet. Ben, ils ont quand même forcé l'achat.
Et que répond Serge Bousquet-Cassagne à tout ça ?
Il n'a pas souhaité répondre à nos questions, mais il s'est exprimé à l'audience. Nous avons fait lire ses propos.
Cela fait 25 ans que nous gérons la Chambre. Entendre que j'ai servi mes intérêts personnels me trouble énormément. Ça me fait très mal. Vous pouvez m'accuser de tout, mais pas d'avoir servi mes intérêts particuliers. Je n'en ai pas besoin, jamais je n'aurais tenté de faire ça. On a tout fait justement pour ne pas se servir, contrairement à ce que font beaucoup de chambres d'agriculture en France.
J'ajoute que durant cette audience devant la Cour des comptes, Serge Bousquet-Cassagne a beaucoup renvoyé la faute sur la préfecture qui aurait pu et qui aurait dû intervenir s'il y avait vraiment eu des problèmes, dit-il. Une défaillance de l'État dans son rôle de tutelle qui a d'ailleurs été soulignée par la Cour des comptes dans son rapport.
Bien, alors on va s'arrêter là pour le moment, mais surtout restez avec nous. Dans un instant, on va vous raconter comment cette branche, sans doute la plus dure de la coordination rurale, comment la branche du Lot-et-Garonne tente de prendre le pouvoir à la tête du syndicat. Helping Hand, la dernière petite merveille du bluesman venu de Louisiane, Robert Finlay, 71 ans, en duo sur ce titre avec sa fille Christy Johnson.
Révélation. Benoît Colomba sur France Inter.
Et retour à notre enquête sur les méthodes musclées et parfois hors la loi de la coordination rurale, la CR. On a vu que les figures du syndicat en Lot-et-Garonne étaient mises en cause dans de multiples affaires devant la justice. Et Julie Pietri, c'est vous qui avez mené l'enquête. Vous nous révélez que cette branche la plus puissante de la CR, parce que c'est celle qui compte en France le plus d'adhérents, cette branche fait aussi pression sur le syndicat national avec des pratiques plutôt étonnantes.
Oui, le 23 juillet, José Pérez, président de la CR 47, écrit un mail à la présidente du syndicat, Véronique Le Floch. Il demande au national de payer directement les amendes des agriculteurs condamnés à titre personnel pour des dégradations commises lors des actions coup de poing de 2024, montant près de 50 000 euros. Nous avons fait lire un extrait de ce mail.
J'ose espérer que le National ne fera pas de chichi pour régler les amendes. Véronique, je te le répète, ces actions étaient nationales et la CR nationale doit régler toutes les amendes de tous les départements qui se sont battus pour vous faire briller. Merci de nous faire le virement rapidement. Je n'aimerais pas devoir venir à Gimont récupérer l'argent qui nous est dû.
Je précise que Gimont, c'est une commune du Gers où se trouve le siège de la coordination rurale nationale.
Et comment réagit la direction du syndicat à cette demande plutôt pressante de sa branche en Lot-et-Garonne ?
C'est un refus catégorique. Il nous intimide et nous menace nous aussi, s'indigne une source en interne. L'argent d'un syndicat, qui est en partie de l'argent public, ne peut en aucun cas servir à payer des amendes personnelles, nous confie encore cette source. De son côté, José Pérez, président de la coordination rurale Lot-et-Garonne, ne voit pas où est le problème.
Je suis désolé, aujourd'hui le syndicat, la CR nationale, si elle n'est pas là pour payer les amendes des départements, à quoi elle sert ? Franchement, enfin, c'est son rôle. Imaginez si mes agriculteurs qui vont être condamnés, ils avaient leurs amendes à payer, c'est le début de la peine, quoi. Il n'y aurait plus un agriculteur qui vient de manifester, il n'y aurait plus rien. Ce n'est que du bon sens, légal ou pas légal, j'en sais rien, mais ça reste du bon sens. C'est pas loin, j'y vais, donc on va aller les voir. Bien sûr qu'on va aller les voir. Les choses qui ne sont pas normales, l'injustice, j'aime pas l'injustice, moi.
Mais derrière cette histoire d'amende, Julie, il y a en fait des enjeux de pouvoir au sein même de la coordination rurale.
Oui, parce que la CR 47 a des ambitions nationales. Avant l'été, Serge Bousquet-Cassagne, figure charismatique du Lot-et-Garonne, a candidaté pour devenir directeur du syndicat. Il demandait aussi le déménagement du siège de la coordination rurale en Lot-et-Garonne, ce qui lui a été refusé, mais de justesse, en Assemblée Générale Extraordinaire.
Et la question, c'est de savoir ce qui va se passer maintenant lors du Congrès National du Syndicat.
Oui, ce sera les 18 et 19 novembre prochains, avec l'élection du nouveau président. La coordination rurale du Lot-et-Garonne a choisi de ne pas présenter directement de candidat, mais elle agit en coulisses et soutient de tout son poids un éleveur venu, comme elle, de Nouvelle-Aquitaine, de la Haute-Vienne précisément. Il s'appelle Bertrand Vantaud.
L'optimisme qui a été créé et l'envie de rejoindre la CR qui est partie du Sud-Ouest, et il faut bien le dire, du Lot-et-Garonne, a contaminé des gens en disant « oui, c'est possible de s'opposer à ce qu'on veut nous infliger ». Et après, au niveau national, c'est pas parce qu'on rentre dans un ministère qu'il faut devenir feutré et devenir un syndicat co-gestionnaire. Il en est hors de question. On trahirait notre base et on trahirait notre idéal.
Et ça, c'est un point clé. Est-ce que la coordination rurale va rester un syndicat insurrectionnel, pour reprendre les mots d'un de ses membres, ou devenir un syndicat réformiste qui travaille avec l'État ? Christian Convert est secrétaire général de la coordination rurale. Il soutient, lui, la présidente actuelle, Véronique Le Floch, éleveuse laitière bio dans le Finistère et candidate à sa succession. Et il assume une différence de méthode avec ses collègues du Sud-Ouest.
C'est eux les plus forts, on va dire. Hein. Bon, qu'ils aient envie de plus peser, à la limite, je le comprends. Bon, après, prendre le pouvoir, c'est autre chose. Hein, quand on est au niveau national, ben, faut être en mesure de venir discuter et de construire hein, avec l'ensemble de nos partenaires, avec les politiques et tous ceux qui entourent le monde de l'agriculture pour faire avancer nos idées. C'est surtout ça, c'est pas de crier.
Deux candidats possibles, deux postures donc, et un enjeu fort pour l'avenir du syndicat.
Et avec en coulisses, et vous nous le révélez également Julie, des noms d'oiseaux, des injures qui ont circulé sur un groupe WhatsApp.
Oui, un groupe intitulé Action Nouvelle Aquitaine Occitanie et où plusieurs responsables de la coordination rurale du Sud-Ouest s'en prennent à l'ACR nationale, longue liste d'injures qui a été résumée dans un document interne que nous avons pu consulter. Un de ces messages évoque même un mélange explosif entre de l'engrais azoté, de l'ammonitrate, associé à du carburant et à un détonateur, la cible étant le comité directeur du syndicat. Nous sommes allés voir Rémi Dumor, président CR de la Chambre d'agriculture de Dordogne, qui apparaît comme l'auteur de ce message. Il dit ne pas se souvenir, mais écouter sa réaction.
Alors l'ammonitrate, vous savez ce que c'est ? C'est des solutions. J'ai pas parlé de tout faire péter. C'est, là, vous me sortez un propos de son contexte. Hein. On est des agriculteurs, je vous le redis. On a des façons de se parler qui sont des fois rudes, mais c'est pas pour autant qu'on doit tout remettre sur la place publique. Vous savez, on lave son linge sale en famille. Peut-être qu'il y avait un peu de rancœur, mais vous savez, c'est pas parce que vous dites ça que vous le faites. Hein. C'est pas un appel au terrorisme. Hein. Non, loin de là.
Rémi Dumor explique, comme d'autres participants à ce groupe WhatsApp d'ailleurs, que ces messages ont été écrits il y a plusieurs mois, après la conquête de nouvelles chambres d'agriculture. Nous avions besoin de l'aide du national et nous avons été trop laissés seuls, justifie-t-il. Selon plusieurs sources concordantes, un membre de la CR nationale, particulièrement visé dans ces échanges, a porté plainte.
Merci Julie Pietri pour cette enquête que vous pouvez retrouver sur notre site, avec également une vidéo pour tout comprendre, réalisé par Nicolas De Witt de la cellule Investigation de Radio France. Et je vous le rappelle, si vous avez des informations à nous communiquer, vous pouvez le faire à cette adresse sécurisée alerte.radiofrance.fr. Révélation, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été préparée par Raphaël Canezan et réalisée par Christophe Imbert. À la programmation musicale, il y avait Jean-Baptiste Audibert et à la technique Achille Aknin. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour le prochain numéro de Révélation.